Oui, bonjour, je suis Sylvie Cordes-Marot, je suis professeure d'économie gestion dans l'Académie de Montpellier. Je suis aussi présidente de l'Association des professeurs d'économie gestion. Donc je suis, par mon métier, mon enseignement, je suis tout à fait sensible à ce que vous avez dit. Donc c'est peut-être un point de détail dans l'ensemble de ces choses merveilleuses qu'on a entendues maintenant. Mais quand vous parlez du calcul des marges des entreprises en disant « si on calcule en pourcentage, on va à la catastrophe parce que nos prix ne sont pas intéressants pour le marché », alors que si on calcule nos marges par rapport juste au surcoût en valeur absolue des matières premières, alors là, ça tourne. Alors moi, je me dis d'abord, qu'est-ce que c'est que cette société? Pourquoi dans la société actuelle, on travaille avec des pourcentages de marge et pas comme vous le faites vous, ça paraît tellement porteur et tellement évident? C'est la première question. Et puis d'autre part, je pense qu'il y a un lien qui n'a pas du tout été, enfin, qui a pas, dans ce que j'ai vu depuis 3 jours, qui n'a pas été fait, c'est-à-dire tout ce qui est le lien entre la gestion et l'économie générale. C'est-à-dire que dans cet exemple-là, on voit très bien à quel point le calcul précis microéconomique dans l'entreprise va être déterminant par rapport à des liens très très forts avec le macro-développement et le développement durable, etc. Quoi. Voilà, je voulais dire que j'avais été très sensible à cet aspect-là.
D'accord. Eh bien. Sur l'entreprise, elle est bien obligée évidemment de vivre avec des marges pour pouvoir payer ses salariés, ses fournisseurs, etc. Mais effectivement, le seul calcul dans le schéma que je vous ai exposé, c'est que le coût finalement durable est très marginal et l'entreprise peut vivre correctement en margeant comme d'habitude sur le reste de son fonctionnement. Elle ne modifie pas beaucoup son fonctionnement. Enfin, tout ça pour dire, évidemment, je suis très content que vous y soyez sensible. Finalement, l'effort n'est pas insurmontable, loin de là. Et vraiment, le fait de l'isoler en pied de facture, ça peut permettre à tout le monde d'avoir des produits respectueux de l'environnement à des prix très très proches de ce qu'ils achètent habituellement. Donc, effectivement, bon, pour l'instant, ça n'a jamais été mis en place. Alors, je ne crois pas. J'espère qu'il y aura un bel avenir à ce type de mécanisme.
Il y a d'autres questions?
Oui. Moi, j'ai le micro. Là, je suis ici.
Ah oui, d'accord.
Oui, à travers ce film et toutes les réunions qui ont lieu depuis 3 jours, il y a une question qui me laisse perplexe quand même. C'est le rôle extrêmement néfaste des grandes entreprises multinationales lorsque l'on parle de déréglementation, d'anomalies dans le marché, dans la pollution, etc. On voit toujours derrière ça les financiers. C'est presque le fil rouge de toute cette affaire, de ces 3 jours. Ces financiers qui cherchent les meilleures marges à exploiter le maximum de personnes, le maximum de pays. Et lorsque je pense aux prêtres, par exemple, c'était au Honduras, j'imagine qu'il était presque plus facile pour un gouvernement honnête de chasser les exploiteurs plutôt que de protéger le curé. Ça me paraissait assez naturel, j'allais dire. Donc, on ne met pas une armée pour protéger le curé, mais on chasse ou on maîtrise les exploiteurs. De la même manière, lorsqu'on voit Bhopal, qui est le scandale inouï, c'est une véritable honte, moi je pense que le PDG vit tranquillement, quelque part aux États-Unis ou ailleurs, car je n'ai pas écho que cette personne ou ces personnes et souffert en quoi que ce soit, à part donner un peu d'argent, semble-t-il. Mais ça, c'est presque la provocation. Or, on va discuter dans les jours qui viennent encore, Réunion, Rio, Rotterdam, ou je ne sais pas, ou Copenhague, j'en sais rien. On va discuter des tas de choses. On va se mettre d'accord, on fera une photo, comme je disais ce matin ou hier, on fera une photo de famille, on fera un beau discours, on fera un certain nombre de textes. Chacun rentrera chez soi et ça va continuer. C'est pour ça que je suis moyennement optimiste, à vrai dire, parce qu'en fait, c'est là qu'il faut se battre. C'est sur ces groupes, sur ces, j'allais dire capitalistes, c'est un peu court, mais ces pouvoirs financiers qui sont morts l'année dernière et qui sont de nouveau en pleine activité et ça va continuer. Donc, ce que vous faites, c'est remarquable. Je pense à votre entreprise, je pense à tous ceux qui témoignent. Mais Peut-être que je suis un peu vieux maintenant.
Non, non, on a dit
que c'est un
après-midi optimiste. Donc
bah oui, voilà. Peut-être qu'en vieillissant, on devient moins optimiste. Sablon, je termine. Ma question est, est-ce que réellement vous y croyez? Est-ce que réellement on peut, bah, j'allais dire, terrasser cette affaire, terrasser tous ceux qui font ça?
Cyril ou Sébastien, ou... enfin en tout cas tous les témoignages là qui ont été donnés cet après-midi montrent qu'effectivement on peut agir. Donc est-ce que ça va suffire?
Il ne m'appartient pas, enfin je ne suis pas la personne la mieux placée pour répondre à ça. Je voudrais apporter une précision et donner un élément de réponse. La précision, vous avez évoqué, j'y pense du coup, l'honnêteté oblige à dire qu'au moment où j'écrivais la voix off du film concernant le patron de Bhopal, celui-ci a eu le mauvais goût de décéder de sa belle mort dans sa retraite paisible aux États-Unis, ce qui fait que non seulement il n'a jamais été traduit en justice, mais en plus de ça, ça n'aura jamais lieu. Voilà. C'est une petite précision, on l'a su quelques jours après. Et moi, à mon niveau, mais on taxe souvent d'idéaliste, je pense que parmi ces puissances dont vous parlez, ces puissances-là sont aussi constituées d'individus. Je pense qu'il y a des générations d'individus qui sont en train de se... Enfin, qui sont les nôtres, je pense que vous en faites partie dans les milieux économiques, et que ces puissances-là sont aussi constituées de travailleurs, de cadres, qui eux-mêmes arrivent certainement au travail avec d'autres valeurs ou l'envie d'intégrer ces valeurs à leur outil de travail et au sein du système au service duquel ils travaillent. Donc il me semble que là, il y a peut-être effectivement un lieu, une possibilité de mouvement. Qu'est-ce que ça va donner, comment et dans quelles échéances, j'en sais rien, mais voilà, toujours sous l'angle du temps de l'action individuelle, pas que individuelle au sein d'un cadre, là il me semble qu'il y a quand même une réalité.
Oui, vous demandez si finalement si on y croit vraiment, si on est optimiste ou si c'est finalement un vœu pieux en se tapant la tête dans le mur en disant oui j'y crois, et ben oui j'y crois. Parce que les personnes que j'ai rencontrées m'ont donné cette espérance-là. Et pour reboucler justement sur ce problème de Bhopal, en effet, c'est une honte que ça soit encore aujourd'hui dans cette situation. C'est-à-dire que le 3 décembre qui vient, ça sera le triste anniversaire des 25 ans de la catastrophe de Bhopal. Aujourd'hui encore, les eaux sont contaminées. Aujourd'hui encore, le site n'est pas décontaminé parce que la grande entreprise qui a racheté le site Union Carbide, qui est Dow Chemical, n'a pas décidé de le décontaminer, malgré l'injonction de la Cour suprême de l'Inde en décembre dernier, qui lui demandait de le faire. Donc, en effet, c'est difficile, c'est un combat qui est difficile, mais moi, ce qui me donne espoir, c'est que, même si ça fait 25 ans, les personnes qui combattent ont obtenu des victoires petit à petit sur la reconnaissance des victimes en termes de soins, en termes de suivi, en termes de, pour une toute petite part seulement, sur des compensations financières. Donc il y a des petites choses qui ont abouti, et ce qui me donne l'espoir, c'est de voir à quel point ces personnes-là restent militantes, restent et persévèrent, et sont toujours présentes. C'est-à-dire que si elles y croient et elles continuent à se battre après 25 ans, je ne vois pas pourquoi moi, je n'y croirais pas. Et donc, c'est accompagner ces personnes-là. Et je veux rebondir justement sur tout à l'heure. Je n'ai pas fini de répondre à votre question. Finalement, où j'en suis, moi, aujourd'hui? Là, vous avez découvert plusieurs personnages à travers le film. Si vous avez envie d'en découvrir un peu plus, la semaine qui vient, il y a un livre de photographie qui va sortir où vous pouvez retrouver 21 portraits de ces personnes-là. Et à l'occasion de la sortie de ce livre et de la genèse de l'association que j'ai créée pour travailler avec eux, Rachida et Champa Devi vont venir en France pendant une semaine pour justement, et ça sera la première action concrète de cette association que j'ai créée, pour pouvoir exposer en France et en Europe leur combat, leur donner encore plus de visibilité. Et c'est pour ça que j'y crois et j'ai de l'espoir, parce que on est de plus en plus nombreux à se mobiliser, on est de plus en plus nombreux à poser votre question, à ne plus supporter cette situation, et le nombre critique, justement, comme on disait, en étant seul, on ne peut pas avancer. Mais plus on va être nombreux, et plus il va y avoir un nombre critique de personnes qui vont dire « Cette situation-là, je ne l'accepte plus. Je n'en veux plus, et on peut faire autrement. » Et des solutions, il y a des solutions techniques, il y a des solutions économiques. Les solutions, moi, ce n'est pas ça qui m'inquiète, finalement. Le vrai nœud du problème, il est sur la volonté. La volonté de ce type de grandes entreprises, mais qui finalement, comme le disait Cyril, est constituée d'individus comme nous. Alors peut-être qu'il y en a qui ne sont pas vraiment comme nous, mais la majorité des gens à mon avis, ont cette envie d'un autre monde. Donc, volonté entrepreneuriale, mais volonté politique. Et là, on rebondit sur justement le rôle de la politique qui va être aussi de donner les bonnes règles et d'instaurer des cercles vertueux, parce que créer du développement durable, ça a un coût. Et si ce coût-là n'est pas compensé par des réglementations, les personnes qui rentrent dans des cercles vertueux, sur le court terme, sont pénalisées par rapport à ceux qui ne rentrent pas dans ces logiques-là. Donc il faut une volonté entrepreneuriale, il faut une volonté publique, mais moi, la volonté dans laquelle je crois encore le plus, c'est la volonté individuelle. Parce que finalement, nous tous, comme le disait très justement M. Passet, c'est le cumul de ces volontés individuelles, le cumul de ces acteurs de l'histoire que nous sommes finalement, qui peut créer un vrai contre-pouvoir, qui est le pouvoir de la société civile, de dire à un moment, nous tous ensemble, et là on retourne sur la politique au sens noble du terme, nous tous ensemble, on veut autre chose. Et on s'organise ensemble pour, de manière peut-être coercitive, on peut aller jusque-là, obliger nos dirigeants à entendre notre voix. Et pour le sommet de Copenhague, c'est ce qui se passe. Il y a énormément, énormément de campagnes qui se mettent en place à travers le net, à travers la presse, à travers etc., comme par exemple 350, qui est le taux de parties par million de particules qu'il ne faut pas dépasser dans l'atmosphère pour que le réchauffement climatique ne soit pas catastrophique. Et cette campagne internationale est rejointe par un nombre incalculable de petites ONG, d'écoles, d'entreprises, et notamment, et là je fais un petit clin d'œil à M. Perramon, qui est notamment BC aux Pays-Bas, qui aussi fait partie de cette campagne internationale. Donc du coup, pour répondre, et je finirai là-dessus, j'y crois.
Merci Sébastien de ce credo. Très enthousiaste. Une autre question ? Madame, oui.
Une citoyenne, mais issue du monde textile. Donc un grand coup de chapeau à Altertex pour avoir une entreprise textile en Rhône-Alpes. Mais moi, j'ai une question à vous poser. C'est que j'adore le coton, je porte du coton, c'est un des meilleurs textiles. Mais on va encore me culpabiliser à porter du coton, parce que le coton, c'est un pourvoyeur d'eau. Ça demande énormément d'eau, voire l'assèchement de la mer d'Aral avec le coton. Donc on va me culpabiliser de porter du coton. Donc ma question est-ce que vous faites des recherches dans une autre fibre textile que le coton, moins gourmand en eau ? Voilà. Merci.
Oui, comme je vous le disais tout à l'heure, enfin, j'ai peut-être pas mal exprimé, notre idée pour démultiplier les possibilités créatives, c'est d'utiliser un maximum de fibres différentes. Comme on le disait, la consommatrice, elle veut acheter un vêtement parce qu'il est beau, pas parce qu'il est bio. Donc j'ai pris l'exemple du coton parce que c'est le plus important et c'est une des fibres les plus consommées sur la planète au niveau textile. Mais il existe évidemment d'autres fibres. Il y a le lin, il y a le chanvre qu'on commence à réutiliser. Il y a évidemment les fibres synthétiques, il y a aussi la viscose et l'acétate qui sont issus de pâte à bois, donc c'est renouvelable. Et le coton, certes, même s'il est bio, il consomme beaucoup d'eau, mais il y a des zones où la pluviométrie permet de cultiver du coton sans irrigation. L'exemple de la mer d'Aral est évidemment épouvantable, mais puisqu'on a asséché cette mer, mais il y a des endroits où le coton pousse sans avoir besoin d'irrigation. Donc il ne faut pas... Là encore, je pense que le schéma qui intègre l'économie, et ce que disait monsieur tout à l'heure, à savoir si on nage à contre-courant, il y a, les consommateurs sont attachés à un certain nombre de choses. Si on veut tout bouleverser, tout changer, tout casser, changer tous les codes, dans 25 ans on y est encore, ou dans 30 ans on y est encore, essayons petit à petit, chacun à notre niveau, de modifier un petit peu ce que l'on peut, tout en étant en adéquation avec les règles du marché. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Oui, mais il n'y a pas de raison d'être culpabilisé. Il y a du coton, s'il est cultivé de manière correcte et si les gens peuvent vivre dignement de leur travail, je pense que...
Merci. Encore une... Malheureusement, le temps nous est compté, donc une dernière question.
Oui, bonjour, Fabrice Hourlier, bonjour. Professeur de sciences économiques et sociales. Alors finalement, quand je vois votre film, moi je me sens être en défaut, que je ne prends pas ma part de responsabilité. Parce que finalement, si notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que citoyen en général, c'est de former en effet des gens ordinaires qui veulent agir dans le sens du développement durable, moi je dois reconnaître que dans ce que j'enseigne, je ne permets pas ça. Parce que finalement, quelles sont les deux choses qu'on aborde en cours? Ça va être à la fois dire on peut arriver à du développement durable en faisant intervenir le marché beaucoup plus. Ce matin, on a parlé là des droits à polluer. On va créer une bourse qui va augmenter un peu le prix des producteurs qui polluent. Et donc, tout ça va se régler. Et ce matin, on voyait bien à la tribune EDF qui regardait avec un grand sourire parce que finalement, on produit avec assez peu de charbon, mais avec beaucoup de nucléaire. Donc, en effet, sa technologie, il va pouvoir la valoriser. Mais on sait très bien que les déchets nucléaires, on va en apprendre pour des millions d'années derrière. Et puis, je pense aussi à la personne de la Caisse des dépôts qui disait « Oui, nous, ces droits pollués, ça nous intéresse aussi parce qu'on pourra, comme on dit, liquidifier ces produits financiers. » C'est-à-dire, si on crée une bourse de droits pollués, nous aussi, banque, ça nous intéresse, sont ces déplacements. Et finalement, à chaque fois, ce qu'on propose aux élèves, c'est de dire « Écoutez, il y a un problème, mais le marché va s'en charger. Chacun va y trouver son intérêt. Ça va être, on va pouvoir faire un business plan là-dessus. » Et par contre, on parle aussi un peu des taxes, l'intervention de l'État, mais très vite, finalement, et d'ailleurs, le rapport là, qui va être remis par M. Trieu dit que c'est plus simple, le marché. La dépollution, elle sera beaucoup plus facile. Le problème, c'est que finalement, la chose qu'on n'aborde jamais, et que vous vous présentez, et que finalement, nous, on s'interdit aussi de transmettre, parce que c'est vrai qu'on touche aux politiques. Hein, c'est dire, voilà, il y a des intérêts qui sont à un moment divergents. On ne peut pas simplement tout réconcilier dans le marché, tout le monde va faire des bonnes affaires. Mais à la manière des gens que vous nous proposez, que vous nous présentez, c'est qu'à un moment donné, il faut entrer en conflit pour faire avancer des nouvelles lois, faire avancer de certaines contraintes, demander à des industriels qui ont fait certaines actions de payer pour ce qu'elles ont fait dans le passé, avec les conséquences, pour qu'elles assument ces conséquences-là. Et c'est vrai que... alors, là, je fais simplement un constat, mais pour vous dire que c'est vrai, ce que vous nous présentez là, si vous ne le présentez pas de façon militante en dehors de l'école, je dois reconnaître que moi, dans mon cours, je ne transmets pas ça, je ne donne pas cette envie-là. Donc finalement, je vous redonne des élèves qui vont vous dire « Ah, c'est énorme ce qui se passe. Bah, peut-être le marché, le prof d'éco, il nous a dit ça, ça va marcher. » Et puis, de toute façon, les taxes... moi, je les paierai en plus. Donc, c'est vrai que si je peux éviter des taxes, on va laisser faire le marché. Mais moi, je ne mouille jamais ma chemise. C'est ça qui est un peu triste.
Vous vouliez dire un mot sur ce sentiment de culpabilité, Sébastien et...
La culpabilité, alors moi, c'est quelque chose que je vois souvent. Enfin, on est confronté à ça dans les politiques environnementales. Je ne pense pas que ça soit porteur pour les gens. Et moi, qui travaille dans l'environnement depuis 6 ans, j'ai aussi mes défauts. Quand j'étais en Afrique, je conduisais une 4x4, ce qui est une catastrophe environnementale, mais parce que c'était la seule façon de se déplacer. Et donc, moi, enfin, personnellement, moi, je pense qu'il faut faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Il y a des choses qu'on adore faire, voyager. Par exemple, c'est une catastrophe pour le climat, mais ça nous apporte aussi beaucoup sur le plan personnel, etc. Et donc, à mon sens, l'enjeu... pour demain. Et de la même façon, les entreprises, vous ne pouvez pas dire à tous les sud-dirigistes du monde, bah, vous allez fermer. Et puis, et donc, l'enjeu, quand même, c'est d'avoir vraiment un discours où c'est des nouvelles opportunités, on a besoin de votre créativité, les élèves, imaginez des nouvelles choses, au lieu d'imaginer, justement, comment faire un pouillème de profit en plus sur votre entreprise, bah, imaginez un nouveau textile qui sera plus écologique, etc. Et pour ça, l'entreprise privée... et bien, mine de rien, c'est aussi un nœud d'imagination. C'est un outil formidable si on est capable de la canaliser. Et moi, je pense qu'il faut utiliser l'inventivité de l'entreprise privée et les régulations de l'État qui est derrière pour taper avec la règle quand l'entreprise privée, et ben, elle fait des choses qui ne sont pas acceptables, etc. Donc, nous, on est là pour poser un cadre. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il faut avoir un discours écologiste qui soit trop culpabilisant, etc., parce qu'on n'avancera pas comme ça. Et puis, de toute façon... quand les gens meurent de faim, vous ne pouvez pas leur dire « Attention, protégez la planète ». Vous leur dites « On va essayer de vous donner à manger dans des façons qui seront respectueuses de l'environnement ».
Merci Aurélie.
Moi, je voudrais faire un lien avec plusieurs choses. Sur le fait que, bon, un film comme celui qu'on vous a proposé, effectivement, il y a une démarche sensible. On n'est pas sur le domaine économique frontalement, on n'est pas sur le domaine politique frontalement, mais néanmoins, même si on est sur le sensible, il y a aussi une démarche de conceptualisation, ce que vous disiez tout à l'heure. Le film passe aussi par un travail de conceptualisation, de réflexion, produit avec Sébastien, voilà, qui innerve le film. Et moi, je suis sur les deux dernières interventions. Cette notion de culpabilité, je pense que c'est quelque chose de tout à fait important sur les changements en cours et cette notion du temps de l'action. Je pense que le système, il y a quand même quelque chose de très sous-jacent autour de la culpabilité, qui est un produit inhérent à notre société, qui fait que ça peut avoir une fonction bloquante sur des changements de mentalité, sur des changements de pratique. Et que, effectivement, ça. Il est possible de se débarrasser de cette notion-là. Oui, effectivement, on conduit les véhicules. Oui, on agit dans des entreprises de telle ou telle façon. Mais je pense qu'il est possible de transmettre les messages d'une façon différente ou de se décharger de ça. Parce qu'effectivement, ça a une action inhibante. Ça a une action inhibante. Et je crois que dans le contexte sociétal dans lequel on évolue, nous, si on ne se débarrasse pas de ça, on peut aller vers des replis. Et ces replis-là, effectivement, sont pas producteur d'action. Voilà, ça, une remarque sur ce qu'on a pu voir.
Merci Cyril. Voilà, ce débat est fini et merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout.